Vous êtes toujours avec nous sur BAC FM 106.1, vous écoutez le CDLP, l'émission, où je reçois quotidiennement des acteurs qui font l'actualité dans notre beau département nivernais. Êtes-vous vulgaire, chers auditeurs? La vulgarité renvoie à plusieurs imaginaires collectifs. Souvent, on s'en sert comme prétexte pour dire aux enfants de ne pas jurer. D'autres fois, des hommes s'en servent pour critiquer la tenue des femmes. Manque de liberté, censure artistique et sociale, le mot vulgarité a souvent été une arme pour discréditer ceux qui veulent en réalité s'exprimer. Depuis le 1er février et jusqu'au 24 mai est organisée au musée de la Faïence et des Beaux-Arts l'exposition temporaire vulgaire. Je précise que c'est le nom de l'expo et pas un adjectif personnel. Bonjour Marie Chevalier.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice au musée de la Faïence et des Beaux-Arts. Bonjour Françoise Hervé.
Bonjour.
Vous êtes adjointe déléguée à la culture patrimoine et la vie étudiante pour Nevers.
Tout à fait.
Alors, première question un petit peu large. Pourquoi avoir choisi ce mot vulgaire? Qu'est-ce que ce mot recouvre dans votre exposition?
Oui, alors... Je crois que c'est important pour une exposition d'avoir un titre un petit peu accrocheur, et je crois que ce mot l'est. C'est un mot qui intrigue et, vous l'avez dit, il a des significations différentes selon les époques. Alors en fait, vulgaire au 19e siècle, c'est pas vraiment ce qu'on entend effectivement en parlant de la tenue des femmes aujourd'hui. C'est plutôt en fait une manière de dire commun, ordinaire. Et en fait, c'est un qualificatif que certains critiques vont appliquer aux peintres réalistes qui représentent donc des scènes de la vie quotidienne. Et on va juger ça vulgaire en fait, de représenter par exemple des hommes et des femmes au travail. Donc c'est dans ce sens-là que le mot a pu être appliqué à Hector Anoto, puisque c'est bien une exposition qui traite de peinture et notamment de ce peintre nivernais.
Et si je peux ajouter une petite touche étymologique, puisque moi j'étais de formation professeure de lettres classiques, j'ai enseigné le latin pendant des années dans ce lycée Raoul Follereau, eh bien je dois dire que vulgus c'est la foule, donc c'est le peuple, d'où vulgaire l'adjectif vulgus.
C'est bien la preuve que notre belle langue française évolue, j'allais dire d'année en année. Pourquoi centrer l'exposition sur Hector Anoto et qu'est-ce qu'il raconte de la Nièvre au XIXe siècle?
Alors, je pense que l'idée de centrer sur Hector Anoto est venue d'une actualité scientifique avant tout, puisqu'il y a donc un doctorant à l'université de Clermont, Dominique Raduf, qui a recensé dans son travail l'intégralité des commentaires parus sur l'œuvre d'Hector Anoto pendant sa vie. Donc une somme assez considérable que nous on avait envie d'exploiter pour justement revisiter le parcours artistique d'un jeune peintre originaire de la Nièvre. Et en fait ce parcours d'Hector Anoto, on aura peut-être l'occasion d'en parler, il est tout à fait typique de celui que peut être l'itinéraire d'un artiste au XIXe siècle, venant de la Nièvre et puis partant à Paris.
C'est quoi le parcours atypique justement de...
Alors ce parcours typique, c'est donc déjà le fait d'avoir peut-être une petite errance en début de carrière, puisque lui il a commencé par faire des études pour devenir militaire, comme le reste de sa famille, mais ça fonctionnait pas bien.
Assez éloigné du monde artistique.
Exactement, mais bon, finalement la vocation triomphe, on va dire. Et donc il a finalement intégré plusieurs ateliers artistiques, puisque une des manières d'apprendre l'art, c'est donc d'aller à l'école des Beaux-Arts, mais également d'aller dans des ateliers d'artistes déjà établis, d'artistes qui sont souvent eux-mêmes académiciens, donc qui font partie de l'Académie des Beaux-Arts, et qui sont déjà reconnus. Et puis ensuite, eh bien, il faut se montrer, il faut montrer son art, il faut être connu en fait, mais comme aujourd'hui en quelque sorte. Et donc pour ça, on va exposer dans des grandes expositions qu'on appelle les salons. Le mot salon, ça vient du salon carré, au Louvre. C'est l'endroit où se tenaient ces expositions annuelles pendant un certain temps. Après, elles ont déménagé, elles ont connu plusieurs lieux. Mais en tout cas, dans ce salon, on essaie de faire montrer ses œuvres. Il y a un jury, donc il faut passer le test du jury. Et une fois qu'on est exposé, c'est pas gagné, hein, parce qu'on peut être dans un petit coin de la salle. Et il faut quand même se faire repérer. Et il faut que les critiques parlent de vous. Donc c'est ça, en fait, que raconte l'exposition.
C'est sur le site, tout ça, c'est très bien expliqué dans le petit pitch d'introduction. Il y a aussi le regard des journalistes critiques, du coup, à l'époque. En quoi la critique pouvait faire et défaire une réputation?
Alors, il faut imaginer déjà que le rôle de la presse écrite est quand même très important dans cette deuxième moitié du XIXe siècle. La diffusion, elle est énorme. Et on parle non seulement des titres nationaux, mais aussi de la presse régionale, puisque les journaux locaux relaient en fait beaucoup ce qui se passe dans les différents salons. Et puis, il va y avoir un peu des personnalités dans les critiques, puisque les critiques eux-mêmes ont envie qu'on les lise. Donc, il va y avoir une forme de jeu, un peu voire de caricature même dans la manière d'évoquer les tableaux et les sculptures. Donc, effectivement, ça fait et ça défait les réputations. Mais dans tous les cas, je crois que les artistes ont besoin qu'on parle d'eux. Et même si c'est en mal, ça fonctionne quand même en quelque sorte.
Et c'est intéressant, vous travaillez toutes les deux dans un milieu dit culturel. Comment vous observez les critiques aujourd'hui? Le plus gros, c'est Télérama, mais il y en a plein d'autres, des critiques d'art. Est-ce que ça a encore autant un impact qu'au 19e, ou est-ce que c'est assez différent avec les réseaux sociaux?
Oh, moi, je pense que ça a un certain impact, parce que si vous avez une mauvaise critique, et il y a des enjeux financiers maintenant énormes, parce que si vous avez une mauvaise critique, par exemple, au niveau d'un livre ou d'un film, eh bien, vous ne vendrez pas. Et ça, c'est, on l'entend, on voit bien que les gens qui se font inviter par les médias ont tout intérêt à plaire et à faire en sorte que leurs ouvrages ou leurs films soient très connus. Mais à l'époque, je reviens au 19e siècle, il y avait des artistes qui étaient très mécontents des critiques. Et il y a d'ailleurs eu une insurrection, puisqu'il y a eu le fameux les salons des refusés. Les refusés, c'était tous les tableaux qui n'avaient pas eu l'heure ni le bonheur de plaire aux critiques. Et ça a valu des écrits aussi par certains critiques ou écrivains célèbres qui étaient, ma foi, ils ne mâchaient pas leurs mots.
Oui, puis je crois aussi que le 19e siècle, c'est un siècle qui est traversé par des tensions entre des recherches de modernité et justement ce système des beaux-arts qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a des institutions qui encadraient la création artistique, qui étaient quand même assez, assez normées, assez fermées. Et donc tout ce qui en sortait était pendant un temps rejeté. C'est ce qu'évoquait Françoise Hervé à l'instant. Voilà, la critique et puis l'opinion publique progressivement ont fait que on a de moins en moins voulu de ce carcan, en fait. Et d'ailleurs, le système des salons, en quelque sorte, se dilue à la fin du 19e siècle. Il y a plein de salons qui se créent en parallèle. Et donc, du coup, le salon officiel perd son importance puisqu'il y a des salons de partout.
73, peinture, gravure et croquis, là par contre c'est officiel. Il y a aussi d'autres artistes nivernais, je crois. Comment ça s'est fait, la sélection des œuvres?
Alors, il y a plusieurs choses qui ont guidé le choix. D'abord, il est quand même important pour nous de représenter la carrière d'Hector Anoto et notamment tout ce qui avait été montré lors des salons officiels. Donc ça a été un premier critère de sélection. Et ensuite, on a quand même choisi des œuvres pour lesquelles il y avait des commentaires intéressants, puisqu'il y a un petit livret dans l'exposition qui permet de découvrir les critiques parues à l'époque sur les œuvres. Donc faire un petit jeu d'aller-retour, c'est assez amusant. Et puis par ailleurs, on a souhaité aussi présenter des œuvres d'autres artistes nivernais, puisqu'on a une salle de l'exposition où on reconstitue l'ambiance d'un salon de l'époque, un salon artistique de l'époque. Et donc il y a d'autres artistes nivernais qui prennent place dans cet univers, des artistes qui ont exposé au salon également dans la deuxième moitié du 19e siècle. Certains sont connus et d'autres beaucoup, beaucoup moins. On a réussi aussi à présenter l'œuvre de deux femmes, donc ça, on est très contents parce que c'est important de faire rejaillir ces personnalités artistiques dont le souvenir n'est pas forcément conservé.
Moi, j'ai découvert Simone Signoret, que je ne connaissais
pas. Lucie Signoret.
Lucie Signoret, que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai trouvé ces sculptures remarquables. Et l'autre
Alors, l'autre, c'est une peintre, Anaïs Beauvais, qui a aussi une carrière assez surprenante, puisqu'elle est d'extraction très modeste, en fait. Et elle arrive à se faire un chemin à Paris, c'est assez incroyable.
Quand vous dites que vous reconstituez l'ambiance, c'est aussi dans la déco, dans la musique?
Alors, musique, il n'y avait pas vraiment de musique au salon, à ma connaissance. Alors, ce qu'il y avait, c'est quand même... Donc, il faut imaginer des accrochages où les tableaux sont très proches les uns des autres. Donc, on a essayé de répliquer ça. Évidemment, nos salles ne sont pas aussi grandes que celles du Louvre. Donc, ça ne permet pas forcément de donner absolument cette ambiance, mais je crois qu'il y en a beaucoup. Puis surtout, il y a à la fois des peintures qui sont au mur, il y a des sculptures qui sont au centre de la salle. Et puis, pour donner un petit peu l'aperçu de l'ambiance, il y a donc ce livret qui vous livre les commentaires de l'époque. Et il y a aussi des lutrins sur lesquels sont présentés des visuels et parfois des caricatures d'après les œuvres. Puisqu'en fait, on faisait des critiques en texte, ça on en a l'habitude, mais on faisait aussi plein de petits croquis caricaturaux, comme on en a encore dans la presse aujourd'hui.
J'ai l'impression qu'il y a une sorte de presque de conflictualité en fait entre Paris et la province, cette espèce de circulation des œuvres. C'est présent ça dans l'expo?
Oui, en fait... Oui, c'est une bonne question.
Merci.
En fait, je pense que Paris, quand même à l'époque, est un peu un passage obligé pour les artistes. C'est sûrement en partie vrai aujourd'hui, mais peut-être un peu moins, parce qu'il y a quand même de grandes écoles de beaux-arts qui sont dans d'autres villes en France, et puis on va aussi peut-être plus à l'étranger aujourd'hui. Donc oui, il y a ce chemin obligatoire vers Paris. Et ensuite, À l'imitation des salons parisiens, il va y avoir des expositions qui se créent dans toutes les villes de France. Mais ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y avait un tel intérêt pour les expositions artistiques qu'on se dit, nous aussi, on veut notre salon local. Et donc, c'est ce qui va se passer, notamment à Nevers, mais partout ailleurs, en fait, avec des créations de sociétés des Amis des Arts qui vont se charger d'organiser des salons locaux.
Tout à l'heure, vous avez un petit peu commencé en citant les œuvres de deux femmes. Mais est-ce que vous avez une sorte de coup de cœur pour l'expo, une œuvre en particulier dont vous voulez parler aujourd'hui?
Moi, j'aime bien le tableau qui représente la muse. Ce tableau qui est justement
alors,
emblématique.
Est-ce qu'on a le nom peut-être pour nos auditeurs hein.
Il est tout à fait emblématique
Oui, c'est la muse des arts, en fait.
La muse,
la muse des arts.
Voilà, et quand vous entrez directement dans l'exposition, vous êtes face à ce petit tableau, justement, qui a fait le choix de notre affiche. Hein. Et j'aime beaucoup son visage, enfin, ce calme apparent.
Alors, pour les gens qui nous écoutent, c'est une femme, en réalité, qui est assise sur une...
comment décrire ça? C'est une femme, effectivement, qui est toute nue. Bon, là, on ne le voit pas trop sur la photo.
Voilà, on a mis Hector à la place.
Mais c'est normal qu'elle soit...
Censurée parce que vulgaire, hein, j'imagine.
Alors, en fait, il y a un petit jeu visuel, on est d'accord.
Bon, on l'a fait un peu exprès.
Voilà. Non, mais c'est pour attirer le public. Voilà, on assume. Effectivement, c'est une femme nue parce que c'est une muse, c'est une allégorie. Voilà, donc, c'est la manière qu'on a habituellement de représenter les allégories.
Elles sont nues.
Et c'est intéressant parce qu'elle est entourée de... plein d'attributs qui évoquent les arts. Donc on a un instrument de musique, on a une palette, on a un livre. On va avoir aussi des éléments qui sont liés à la richesse, à la prospérité. Et puis elle est représentée dans un décor orientaliste qui est très typique en fait. C'est une influence que la peinture reçoit à cette époque. On va s'intéresser à l'exotisme en fait.
Tout à fait, du 19e siècle.
Est-ce que vous avez un coup de cœur du coup
Moi du coup justement, juste de l'autre côté du mur, il y a un petit panneau qui représente une rue d'Alger.
Ah oui.
Voilà, je trouve ça assez charmant parce que déjà c'est un petit panneau en bois et en fait on peut imaginer que c'est peut-être un morceau de porte ou un morceau de volet parce qu'on voit la jointure entre les lattes de bois. Donc c'est quelque chose de fait un peu comme ça sur place, sur le vif. Et on voit une rue avec un éclairage assez fort et donc un contraste fort entre de l'ombre et de la lumière, du rouge, du blanc, du bleu. Et on comprend que ce voyage qu'Hector Anoto a fait en Algérie en 1853-54, ça l'a beaucoup aidé à élargir sa palette de couleurs en fait, comme le faisaient beaucoup d'artistes à l'époque. Ouais.
À qui s'adresse l'exposition donc aux connaisseurs d'art, au grand public, aux scolaires, pourquoi pas aux étudiants?
Ah oui, à tout le monde.
À tout le monde, au plus large public possible.
À tout le monde, et puis il y a des petits ateliers amusants, je te laisse en parler.
C'est
Marie-Lys,
ça. Alors je crois que l'exposition, elle s'adresse un peu à tous. On va proposer des visites, bien sûr, pour les groupes, et notamment pour les groupes scolaires. Mais même si on visite en autonomie ou en famille, il y a beaucoup de choses à faire. Donc il y a trois petites stations dans l'exposition où on peut interagir, on va dire. Alors il y a notamment une machine à fabriquer des badges. Donc on choisit son détail de l'œuvre d'Hector Anoto et on peut fabriquer son propre petit badge. On peut aussi voter pour son œuvre préférée de l'expo. Alors c'est des œuvres qui sont, enfin c'est une sélection des œuvres de l'exposition qui habituellement sont en réserve et celle qui recevra le plus de votes sera exposée dans le parcours permanent à l'issue de l'exposition. Et puis il y a aussi un livret de visite pour les enfants qui invite chaque enfant à devenir un petit critique d'art, donc en découvrant ce que c'est qu'exprimer son jugement artistique.
Donc c'est marrant, ça invite les enfants à devenir critiques, en tout cas à aiguiser leur esprit critique. Cette expo, j'avais un peu le sentiment que c'était un peu une critique de la critique, mais pas tant finalement, c'est aussi une mise en avant de ce qu'était la critique à l'époque.
Je crois que oui, c'est montrer l'importance qu'a la critique. On pose quand même de manière sous-jacente la question de l'influence que la critique peut avoir sur la création. C'est-à-dire, est-ce que l'artiste n'a pas tendance à aller finalement vers les choses qui reçoivent une critique positive ? Ou pas d'ailleurs, en fait. Mais en tout cas, il y a certainement une interaction entre les critiques et la création elle-même. C'est ça qui est intéressant.
Est-ce qu'il y a une médiation particulière autour de l'expo, des visites
Oui, bien sûr, il va y avoir à la fois des visites, des ateliers, notamment pendant les vacances de février. Et puis on recevra aussi le commissaire d'exposition, le commissaire scientifique Dominique Raduf, pour un temps d'échange avec le public pour expliquer un petit peu sa recherche qui est quand même très pointue. Hein. Vous l'avez compris, on a essayé de la vulgariser dans l'exposition. Il y a plein d'autres choses à en dire, bien sûr.
Côté pratique, l'expo est annoncée gratuite. Pour toujours le côté pratico-pratique, on aime bien ça avec FM. C'est quoi les horaires d'ouverture ?
Alors, ça va être simple et compliqué à la fois parce qu'on a deux périodes. Jusqu'au 1er avril, on est sur les horaires d'hiver. Donc le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 13h à 18h. Et puis après, on passera en horaire d'été, c'est-à-dire qu'en fait, on est ouvert le matin, donc tous les jours, sauf mardi, de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Ouais. Et ça, de toute façon, c'est retrouvable en ligne.
Oui, naturellement, sur culture.nevers.fr.
Voilà.
Eh ben, merci beaucoup Marie Chevalier, merci Françoise Hervé d'avoir répondu à mes questions. Toutes les infos sont sur le site, sur les réseaux peut-être aussi.
Exactement, oui, on est aussi sur Facebook et Instagram.
Et on tape Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, j'imagine, Nevers, et on tombe dessus. Merci encore à toutes les deux. Cette émission, elle est maintenant terminée. On est parti sur Bac FM pour le retour de la playlist Rock et Metal. C'est parti sur Bac.